grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue. Ce jeudi 20 novembre 2014, nous parlons de la sécurité au Sahel. Quelle solution africaine? Sur la question, s'est tenu un colloque international et nous avons les organisateurs de ce colloque ici. En plus d'eux, nous avons le professeur Nyang. Moi, je suis Sira Batili et Noum Diré est à la technique.
Studio Tamani.
Alors, bienvenue à vous, chers invités. Le Mali, tout comme le Sahel, havre de paix, a subitement été la cible des bandits armés et narcotrafiquants de tout acabit voulant imposer au paisible peuple un islam archaïque. Ces propos sont du président Ibeka lors du Forum international des jeunes sur la paix et la sécurité au Sahel. Il colle donc à la première partie de cette émission qui essaiera de dresser la situation. Alors, monsieur le Tchadien, on va commencer par vous. Quelle est la situation sur le terrain?
Merci. Avant de commencer, permettez-moi de présenter au nom du comité de soutien au professeur Ibn Omar Mohamed Saleh mes salutations respectueuses à tous ceux qui se battent corps et âme pour remettre le Mali sur le chemin de la prospérité et de la réconciliation nationale. Ensuite, permettez-moi de saluer les notabilités coutumières et religieuses du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage mérité à la résistance et au combat des femmes maliennes. Permettez-moi de dire que l'avenir c'est demain et demain c'est la jeunesse de ce pays. Aujourd'hui, si nous présentons le Sahel en général, c'est que c'est une zone qui regorge et qui recèle d'immenses ressources, notamment des minerais très rares tels que l'or, le pétrole, l'uranium et bien d'autres. Donc c'est pourquoi cette zone est très convoitée par les multinationales étrangères et les puissances occidentales. Le Sahel est actuellement spolié, les ressources du Sahel sont spoliées par des multinationales étrangères et une clique de privilégiés sans scrupules. Tandis que le peuple qui habite cette partie de la sous-région sont rongés par la maladie et tiraillés par la faim. Maintenant, il y a eu des interventions militaires dans le Sahel. Ces interventions ont-elles été efficaces, oui ou non? Premièrement, c'est que la France, elle voulait en quelque sorte protéger ses intérêts, notamment les gisements d'uranium et le pétrole aussi, notamment dans le nord Mali ainsi que le nord du Niger. Et elle avait besoin des forces tchadiennes par rapport à leur aptitude au combat, notamment dans les massifs des Adrar de Ziforas, ce qui rappelle à nos soldats le Tibesti qui est à la frontière avec la Libye. Donc ils sont réputés et ils sont aussi aguerris. Donc la France envoya, même si on martèle à l'Elysée pour dire que c'est la France qui a libéré le nord du Mali, etc. La plupart des combats au sol ont été menés par les forces tchadiennes, bien sûr appuyées par la logistique des Français ainsi qu'un soutien aérien. Donc, au Mali, la France envoya en quelque sorte, ça nous rappelle l'histoire de France de 1917 pendant la Première Guerre mondiale, quand la France envoya les tirailleurs sénégalais sur le chemin des dames, menu haché, et même les quelques survivants qui ont été expédiés n'ont même pas reçu un mot de remerciement. Ensuite, cela illustre la nature d'un gouvernement qui n'hésite pas à se référer, à prendre comme exemple Jules Ferry, en quelque sorte, dans sa mission civilisatrice de la France. Donc, même si, en quelque sorte, les forces notamment présentes au nord du Mali ont été détruites, telles que le Moujaou, Acmi ou encore Ansardine, aujourd'hui, il n'y a plus de terreur dans certaines villes telles que Tombouctou et Gao. Mais il y a encore Kidal, qui est une zone de non-droit, et que même l'armée malienne ne peut pas s'y rendre. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter, c'est qu'il y a des attentats suicides qui se passent aussi. Et en contrepartie, au Tchad, le président tchadien Déby a eu un sauf-conduit dans le dossier centrafricain, parce que la France devait en quelque sorte lui rendre la monnaie de sa pièce. Outre un soutien inconditionnel et l'étouffement de l'affaire de la disparition du professeur Ibn Omar Mohamed Saleh, il a eu un sauf-conduit pour le dossier centrafricain. Parce que nous savons qu'au Tchad, le pétrole tchadien, les puits de pétrole au Tchad sont en train de se tarir. Donc, et le président tchadien se lorgnait sur les puits de Centrafrique, notamment les gisements de Boromata, qui se trouvent au nord de la Centrafrique. Et puis, son ancien vassal Bozizé ne voulait pas lui attribuer ses pétroles qui appartient à la Centrafrique. Donc, il l'a attribué à la CNPC, aux Chinois. Donc, et il a ramené à sa rescousse les Sud-Africains pour remplacer l'armée tchadienne. car pour vous dire, même la garde sécurité présidentielle de Centrafrique, c'est des Tchadiens. Donc, ce qui a entraîné, si vous avez écouté, le 25 mars 2013, il y a eu un accrochage entre le contingent tchadien et les Sud-Africains. Il y a eu plus de 19 morts. Et c'est comme ça que le président tchadien a eu le sauf-conduit pour installer la CELECA.
D'accord. Alors, M. Ibrahim Akébé, vous étiez participant au colloque international consacré à cette question de sécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'insécurité s'aggrave au Sahel?
Et on peut le dire parce que ça a commencé avec une rébellion au Mali, une insécurité au Tchad et ça continue. Donc ça veut dire que vraiment c'est toute la bande sahélo-sahélienne que ça ne va pas du tout. C'est parce que tout simplement, comme il a dit, c'est une zone qui est immense, qui est très très riche. C'est pourquoi dans les années 57, la France a pris une loi qu'on appelle la loi d'Osseret, c'est-à-dire l'Organisation commune des régions sahariennes. En réalité, c'est une politique de mainmise sur les richesses en Afrique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en parlant de la sécurité, on parle tout sauf la souveraineté. Par contre, la France est là, elle intervient, c'est de l'ingérence en réalité. Elle fait croire au peuple français, quoi qu'ils sont là, tout simplement, et pour aider le Mali ou les autres pays de la sous-région à vraiment et assurer leur souveraineté. Rien de là. Et aujourd'hui, si nous voyons la sécurité dans la bande sahélo-saharienne, Elle échappe carrément à l'Afrique. Elle est assurée aujourd'hui par MINUSMA, par Barkhane. Et en ce qui concerne la souveraineté même de l'Afrique, on n'en parle même pas. C'est l'Afrique qui est derrière. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'aggrave. Et Barkhane, c'est à partir de nous, chez nous, jusqu'à la mer Rouge. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment contrôler cette zone-là et sous le jeu de la France. Ce qui doit s'arrêter.
D'accord. Nous sommes aussi avec le professeur Niang, Abdoulaye Niang, qui est chercheur. Alors, professeur, on se demande souvent quel est le moteur de cette insécurité.
Bon, en réalité, c'est le monde qui change. Et le Sahel-Sahara est un incubateur de combattants. Souvent qu'on dit djihadistes, mais le mot qui convient le plus d'extrêmes violents. C'est un incubateur forme de combattants qui peuvent être vus en Irak, comme ils peuvent être vus en Syrie, mais aussi, comme nos frontières sont poreuses, elles peuvent être vues ailleurs. Mais donc, c'est ce changement de plus en plus qui montre que l'État classique tend à être sous attaque par ces organisations d'État islamique, d'organisations mobiles d'extrême violence qui se développent. Et c'est un effet de mode. De la même manière que la société civile s'est développée, il y a des combattants maintenant qui commencent à se développer. Et le Sahel, le Sahara est extrêmement propice à ça, parce que c'est possible là-bas de faire le trafic de drogue, donc d'assurer le transit de drogue, le trafic des migrants, mais aussi échanger les otages. Et donc ça leur permet d'avoir des ressources. Donc tout ce qu'ils ont comme ressources sécuritaires peut provenir, y compris pour Boko Haram. S'ils ont des difficultés des fois d'opérer sur les mers pour la piraterie, ils viennent dans la zone sahélienne, saharienne, pour se ressourcer, pour avoir des ressources financières. Donc, non seulement ils ont des combattants, mais ils ont accès à de la richesse.
Et on se demande qui sont responsables de cette insécurité, les groupes qui se cachent derrière cela.
Bon, en réalité, l'ennemi véritable, si on doit dire les choses en tant qu'économiste de la défense, c'est l'insécurité humaine et sociale. Parce que pour que vous puissiez avoir des combattants, il faut qu'il y ait des candidats. Ouais. Si vous avez des communautés de localité qui sont en insécurité humaine et sociale, ça devient une source de menace contre la sécurité économique. Et la sécurité économique, si elle est menacée, elle était la source des deux guerres mondiales. C'est une source de menace contre le capital d'investissement. Si vous vous souvenez de l'attaque qui a eu lieu en Algérie sur une menace en janvier 2013. Et puis, en même temps aussi, c'est une source d'instabilité des institutions de la République. Vous voyez le Mali aujourd'hui, la République n'existe pas. Et à Kidal, par exemple.
Ouais.
Bon. Et en même temps aussi, les institutions financières sont menacées. Donc, réellement, la défense, comme conçue dans le vieux temps, ne peut plus continuer. Si la défense a été, si vous voulez, mise en trois morceaux, la défense civile, qui est assurée par les communautés de localité, la défense économique et la défense militaire. Et aujourd'hui, si vous dites qui est derrière, vous trouverez les Français, par exemple, dans l'opération Barkhane, pour lutter contre ces djihadistes. Mais en même temps, des compagnies d'industrie sécuritaire et militaire derrière l'armement de ces combattants. Donc, parce que la France a une économie normale à croissance zéro, mais elle a une économie à exportation très importante du point de vue armement. En 2013, c'était vraiment l'année la plus fructueuse pour la France en ce qui concerne. Donc, c'est un mélange tel que il est difficile de dire exactement qui est derrière. Et le soldat malien qui ont été tués à Kidal, c'était avec des armes françaises qui ne se trouvent qu'avec l'armée française.
D'accord. Monsieur Brahim Ibn Oumar, vous êtes chercheur tchadien. Alors, est-ce que djihadistes ne cachent-ils pas banditisme? Est-ce que ces gens-là ne se cachent pas derrière l'islam pour commettre des actes de banditisme?
Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces gens utilisent l'islam. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'islam pour faire la terreur qu'ils sont en train de mener dans toute la sous-région. Et ils se cachent derrière l'islam, mais c'est des groupes d'extrême violence. Et ces groupes, la plupart, ils ont été favorisés, leur ascension a été favorisée par l'Occident. Par exemple, si on prend les groupes, que ce soit ACMI, que ce soit... C'est des gens qui viennent, la plupart d'entre eux, des zones tribales, à la lisière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et ils ont été formés et armés par les Américains, entre-temps, pour combattre l'Union soviétique. Et après la guerre froide, ils se sont retrouvés tous dans leurs pays respectifs. Donc maintenant, le fait qu'ils... Ils se sont retrouvés récemment en Libye et chez Gaddafi entre-temps. Et Gaddafi aussi, on sait que d'une main, il faisait, en même temps, il créait le chaos et de l'autre, il l'apaisait. Et tout ça, c'est grâce à la France. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces mouvements ont quitté la Libye pour venir attaquer le Mali. Et c'est en grande partie grâce à la France. Donc, quand on veut, on dit qu'ils sont islamistes. Tantôt, on les qualifie de narcotrafiquants. Ouais. Après, on les qualifie de tous les noms d'oiseaux, mais c'est des groupes d'extrême violence. Ils se cachent derrière l'islam et ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec l'islam.
Ce qui m'amène à poser cette question à Ibrahima Kébé, vous qui avez participé au colloque international sur cette question de sécurité, quelle définition faudrait-il donner à tous ces termes qu'on voit, djihadistes, narcotrafiquants, extrémistes ou bandits armés?
Je pense que toutes ces dénominations sont vraiment... On peut donner toutes ces dénominations, mais on peut même ajouter des ennemis aussi. C'est très, très important. Parce qu'en République du Mali, par exemple, on a des Maliens qui ont pris des armes contre le pays, donc ils sont des ennemis. Mais on a tendance à cacher ça, qu'il ne faut pas les appeler ennemis, mais que c'est des frères. Parce que tout simplement, notre hymne national dit clairement que si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, et nous sommes résolus de mourir. Puisque nous ne voulons pas nous dresser de toute notre taille pour défendre notre dignité, pour défendre notre patrie, donc on écarte certaines dénominations de certains groupes. Deuxièmement, par rapport à la question de responsabilité, qui sont responsables? À mon avis, apparemment, on voit les ennemis, on voit les rebelles, on voit les djihadistes, on voit ceci, cela. Mais en réalité... Qui sont derrière ces gens-là? Nous savons qu'ils n'ont pas d'usine pour fabriquer les armements. Nous savons qu'ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas d'usine pour fabriquer les billets de banque. Et qui sont derrière? Et pourquoi ils sont derrière? Que ce soit les terroristes, que ce soit n'importe quel groupe. Donc si nous trouverons, le jour où nous trouverons la réponse à ces questions, on trouvera que vraiment c'est celui-là même ou c'est celle-là même qui veut vraiment avoir une mainmise sur toutes nos recherches afin de faire vivre son peuple au détriment du peuple africain. Et c'est lui qui est responsable, ou alors, c'est celle qui est responsable.
Alors, professeur Nyang, on se pose cette question aussi. Quels sont les liens de ces groupes avec l'État islamique, par exemple, la galaxie des groupes radicaux comme l'État islamique?
Non, ils font... Ouais, Boko Haram vient de dire son allégeance vis-à-vis de l'organisation, les organisations d'État islamique. Je pense que ça va continuer. Ça va continuer comme ils l'ont si bien dit. En fait, l'Occident a fabriqué ces gens-là. Et aujourd'hui, ils utilisent la guerre pour faire marcher l'économie. C'est l'économie de guerre, mais ce n'est pas des guerres entre États. Parce qu'en fait, c'est des États en coalition contre des organisations d'État islamique. Des organisations d'État islamique. Bon, pour le moment, ils n'ont pas de territoire, même si de temps en temps, ils en prennent, mais les autres viennent pour les... Donc, en fait, on est en train de relancer l'économie mondiale à travers ce genre de guerre, mm-hmm. qui ne dit pas son nom, qui n'est pas la guerre classique, il y en a qui l'appellent asymétrique ou autre, mais n'entrons pas dans les détails de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement, l'économie mondiale étant dans une crise sociale, globale et sécuritaire, eh bien, les gens pensent que c'est ça la solution pour la relancer. Mais nous, nous considérons que c'est une erreur stratégique.
D'accord, on va observer quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter notre site www.studiotamani.org. Le Grand Dialogue porte aujourd'hui sur la sécurité au Sahel. Quelles solutions africaines ? Nous en parlons avec Brahim Ibn Oumar, chercheur tchadien, Ibrahim Kébé, participant au colloque international sur la sécurité au Sahel, et le professeur Abdoulaye Niang, qui est chercheur. Alors, le deuxième volet est consacré à la responsabilité africaine. Quand on parle de sécurité au Sahel, on voit la France, les États-Unis avec des services de renseignement et tout, mais on ne parle pas de l'Afrique. Monsieur Brahim, vous qui êtes tchadien, vous avez participé au colloque, vous avez soulevé cette question ?
Oui, bien sûr, nous avons soulevé cette question. Et dès le départ, il y avait la CEDEAO et puis il y a le président Diokounda Traoré qui a lancé un appel à la France afin qu'elle intervienne pour libérer le Nord Mali. Donc, nous avons toujours préconisé qu'il faut qu'il y ait une lutte avec une extrême vigueur contre tous les mouvements terroristes et djihadistes. Mais, d'autre part, il faut que ça soit sous l'égide des Nations Unies et il faut que ces forces soient de l'Union africaine ou bien sous l'égide des Nations Unies, une force de lutte contre le terrorisme. Soit, dans un autre aspect, on est d'accord que ça soit une force entre l'Union africaine et l'Union européenne. Mais la France ne doit pas jouer, c'est-à-dire un rôle moteur dans ça. Elle doit prendre part, mais pas jouer un rôle indispensable.
D'accord. Alors, Monsieur Kébé, quel est votre avis sur cet aspect ?
Je pense que la première des choses, nous, notre responsabilité, c'est de ne pas pouvoir mettre en place une armée populaire ou une armée patriotique qui est capable de se défendre et de défendre notre pays. Et c'est ça, en réalité, notre responsabilité. Nous avons passé tout notre temps à demander de l'aide extérieure, à former nos forces de maintien de l'ordre, et c'est-à-dire constituer une armée de paix, rien que de paix. Alors que ce n'est pas ça, en réalité, la question. La question principale, c'est quoi ? Souverainement, il faut que nous-mêmes nous parvenons à nous défendre, sans aucune aide étrangère. Par rapport aux frontières, par exemple, entre le Mali et la Guinée, le Mali et la Guinée peuvent se donner la main et pour sécuriser notre frontière, etc. Mais on n'a pas besoin...
On va arriver aux solutions. Mais déjà, pourquoi on se demande pourquoi l'Afrique n'est pas présente ? Quand on parle des grandes puissances qui luttent contre le terrorisme avec tous les moyens, mais l'Afrique, on ne parle pas d'Afrique, de l'Afrique.
Parce que l'Afrique est sous tutelle. Et quand on est sous tutelle, on est irresponsable. Quand on est souverain, on est responsable. C'est ça la question.
Alors, professeur Niang, quelle responsabilité africaine dans cette insécurité ?
Non, en réalité, il ne saurait avoir de paix durable sans la responsabilité africaine. Si vous prenez même le peu de résultats qu'on a eu avec l'opération Serval, c'est parce que sur le terrain, il y avait les Tchadiens. C'était les Tchadiens qui étaient en première ligne. Et ce sont les Tchadiens qui sont morts pour que les Français puissent avancer. Donc, je corrige un peu, les Africains sont là-bas. Si vous prenez même le MNLA a servi d'éclaireur à l'armée française. Et si vous prenez la déclaration de Yves Le Drian, le ministre de la Défense française, il dit nous avons trois ennemis et l'ennemi, c'est d'abord la température, le premier ennemi, la distance, mais aussi les communautés de localité qui laissent s'infiltrer les combattants. Et quand on vient pour les chercher, ils sont confondus dans la population en train de boire du thé, donc on ne peut même pas savoir que ce sont des combattants. Donc en réalité, aucune victoire ne sera possible si nous ne construisons pas, et c'est ce que j'ai présenté au colloque, le système de défense stratégique de la nation, où la défense civile est assurée par les populations des localités qui sont devenues vulnérables ou qui sont sous attaque. Et la défense économique, c'est vraiment l'économie, pour s'assurer que la sécurité énergétique de la France, qui est menacée à travers les attaques possibles sur le gaz en Algérie, sur le pétrole en Libye et sur l'uranium au Niger, mm-hmm. que ce soit les communautés de localité qui soient la première ligne de défense pour éviter ces attaques-là. Mm-hmm. Et puis maintenant, quand on va dans la défense militaire tout court, mm-hmm. eh bien, il faut une mutualisation des forces sécuritaires. C'est-à-dire que nous avons dans nos calculs prévu que 60% des ressources sécuritaires viennent des autres nations, que vous dites les étrangers, mm-hmm. et 40% par les Africains. Mm-hmm. Et puis, il peut y avoir cette base de la quantité de sécurité du Sahara à Tessalit, mm-hmm. et ça permettra d'avoir une localité géostratégique. Et avec les drones qui peuvent venir des Américains, parce qu'ils disent « no boots on the ground », donc mm-hmm. pas de soldats au sol. Mm-hmm. Donc les soldats qui vont être au sol, ce seront les Africains. Mm-hmm. Mais nous disons que 100% de ces ressources-là doivent venir des autres nations, parce que l'économie extractive qui est là-bas est aussi à 40% prévue pour les autres nations. Donc je ne peux pas mourir pour toi, tu ne dois pas mourir pour moi. On meurt les uns pour les autres dans une vision de globalisation du co-entrepreneuriat qui est axée sur la prospérité partagée, qui nous protège de l'insécurité humaine et sociale et qui nous amène la paix, la sécurité et la stabilité.
D'accord. Alors, M. Ibrahim Kébé, sur le plan politique, est-ce qu'il existe un accord ou des accords entre les États pour la gestion des conflits, par exemple?
À ma connaissance, oui. Que si nous prenons les textes de la CEDEAO, si nous prenons l'Union africaine, mais à mon avis, c'est des coquilles vides. La preuve quand le Mali a été attaqué, même si d'autres pensent jusqu'à aujourd'hui que ça a été planifié, les trucs de Conan, etc. Mm-hmm. Mais la CEDEAO était où? L'Union africaine était où? Mm-hmm. Pas de moyens, pas d'hommes, rien du tout. Mm-hmm. Il a fallu l'intervention de la France, comme on le dit. Et après, c'est CEDEAO qui est venu, après c'est l'Union africaine, etc. etc. Mm-hmm. Donc ça veut dire que nous devons vraiment travailler à renforcer certaines choses mm-hmm. Pour pouvoir sécuriser notre...
Allez-y.
Notre allez-y. Propre sécurité. Mm-hmm.
Ouais. Oui, allez-y.
C'est ça l'essentiel.
Voilà, donc, M. Brahim, quelle est la place qu'occupent les organisations sous-régionales à qui on reproche très souvent d'intervenir en pompier et non en amont? Il l'a déjà dit. Hein?
Oui, il l'a déjà dit. Mais, en fait, les organisations sous-régionales ils jouent le rôle de pacificateurs mm-hmm. et en même temps, certains jouent le rôle de pompiers pyromanes. Ouais. Pourquoi? Parce que mmh. nous avons deux organisations distinctes, nous avons la CEDEAO et la CEMAC, ouais. et le tout avec l'Union africaine. Mais la France, elle se sert des pays africains, de certains pays africains, pour asseoir son veto au Conseil de sécurité. Mmh. Pourquoi? Si on prend par exemple les pays du Maghreb, aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'Algérie et la Mauritanie, le Sahel, le conflit qui se déroule actuellement au nord du Mali les concerne, mmh. les concerne, mais ils ne sont pas conviés. Quand on organise, par exemple, à Niamey une réunion pour la paix et la sécurité au Sahel, en France, ils ne sont pas conviés. Mm-hmm. Et je voulais rajouter à ce que a dit le professeur Niang, mm-hmm. Boko Haram, c'était une nébuleuse. Mm-hmm. Et dans les années 2000, a été créé, c'était plutôt un mouvement à visée séparatiste. Mm-hmm. Mais plus tard, dans les années 2009, ça s'est radicalisé. Et la personne qui a favorisé l'ascension de Boko Haram, c'est le gouverneur de l'État de Borno, mm-hmm. à savoir Ali Bodo Cherif, qui se trouve actuellement en exil au Tchad. Et si vous voyez le chef de Boko Haram intervenir dans une vidéo, il y a des blindés derrière lui, des rames 2000 de fabrication israélienne. Mm-hmm. Ces armes, la seule armée qui dispose de ces armes, c'est l'armée tchadienne. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'on ne va pas dire que Déby est directement impliqué avec Boko Haram, mais il est en tout cas bienveillant. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, il y a eu des négociations entre Boko Haram et le gouvernement central du Nigeria, en N'Djamena. Notre ministre des Affaires étrangères a même affirmé que les lycéennes, otages lycéennes, allaient être libérées sous 24 heures. Et cela a été relayé par le président François Hollande. Donc ça veut dire que c'est une nébuleuse de Boko Haram. Donc il y a beaucoup d'implications et beaucoup de non-dits oui. dans tout ça.
Alors, professeur Nian, vous allez réagir sur cet aspect. Les organisations régionales qui ne se manifestent qu'après les événements, pourquoi pas en amont?
Bon, en réalité, la CEDEAO était un bon exemple d'organisation qui a assuré la stabilité dans les pays, avec ECOMOG, qui a intervenu au niveau du Libéria et de Sierra Leone. Mm-hmm. Et moi, j'étais à l'époque directeur du bureau pour l'Afrique centrale. Et quand la CEAC a relancé, au lieu de créer ECOMOG proprement dit, on a créé le département de l'intégration humaine, de la paix et de la sécurité. Donc, qui revient à ce que vous avez dit, mm-hmm. qu'il faut prévenir plutôt que d'intervenir après coup. Donc même s'il y avait la partie sécuritaire, ça devait venir plus tard. Parce qu'après, quand on a vu les massacres qui ont eu lieu au Congo-Brazza, en particulier dans les années 97, et on ne voulait plus répéter ça, ou bien au Burundi, on ne voulait pas répéter ça quand on était là-bas. Mais si nous prenons 2013-2012, ça veut dire que la CEDEAO a eu une malchance. Ça veut dire que c'était dirigé par Alassane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est très attaché à la France. Et on a donné la médiation aussi à celui qui est parti il n'y a pas longtemps et qui est très rattaché aussi à la France, c'est-à-dire le Burkina, sous Blaise Compaoré. Mm-hmm. Et en même temps, il y avait le Bénin qui était le président de l'Union africaine. Mm-hmm. Donc la CEDEAO et la crise malienne est venue à un moment donné où il n'y avait pas ce mélange dans le leadership entre les anglophones et les francophones. Mm-hmm. Et c'est très important. Ça veut dire que la France n'a pas besoin de passer par un blocage quelconque d'un anglophone leader, et il va directement à des gens avec qui il communique si facilement et dans la langue, mais aussi dans le complot contre la plupart de nos États. Donc c'est ça, et si vous voyez ce qui s'est passé au Burkina, ça n'a pas été comme le cas du Mali. Bon, ils ont appris les leçons du Mali, mais en réalité, parce que le Ghana est aussi le président de la CEDEAO. J'ai oublié, le président de la commission, c'est un Burkinabé. Donc il y a eu une conjugaison malencontreuse des gens qui sont voués à la France, et c'est ce qui a fait que le cas du Mali a été un peu mal géré. Mais en dehors de ça aussi, les pays qui contribuent à des missions comme la MINUSMA, bon, ils cherchent de l'argent. Ce n'est pas, il n'y a pas un engagement au sens réel du terme. Ils viennent, ils sont en mission. Eh bien, en mission, ils ont leur per diem, ils ont leur salaire payé. Mmh. Et quand ils retournent au pays, une partie leur est donnée, ils peuvent construire une maison et tout. Donc, personne ne vient pour mourir. Mmh. Donc, ils préfèrent que la guerre vienne. Ils viennent en mission. Ça dure 10 ans. Mmh. Et puis après, ça se termine en queue de poisson ou ça continue comme le Congo depuis les années 60, mmh. depuis le temps de Lumumba. Le Congo est sous tutelle des Nations Unies.
Ah oui. Mmh. Alors, M. Ibrahim Kébé, on a parlé de la responsabilité africaine, mais il y a la responsabilité occidentale aussi. Et quel peut être le jeu d'intérêt économique qui se cache derrière toute cette insécurité au Sahel?
Je pense qu'on l'a dit, on a évoqué dans ce débat-là. Mmh. Vous savez, notre zone est extrêmement riche. Et l'Europe cherche vraiment de faire une mainmise sur nos recherches afin de pouvoir vivre. Donc nous allons rester dans la galère. Et nous avons un avenir. Nous devons construire cet avenir-là. Nous devons chercher à comprendre également que nous avons un peuple qui a droit à la dignité, qui doit vivre également. Et l'Europe, c'est une question de jeu d'intérêt.
Il n'y a pas souci de sécurité là-dessous?
Comment ça?
Par exemple, si le terrorisme prend de l'ampleur, l'Europe risque d'être touchée. Il n'y a pas ce souci aussi?
Bon,
c'est pas que économique.
Les terroristes qui sont derrière ces terroristes-là, très généralement, ils sont fabriqués par qui? C'est pourquoi je dis par rapport à l'attaque de Kona, il y a d'autres réalités qui sont derrière, qui ne disent pas son nom. Et c'est pourquoi d'autres ont même dit que pour que Dangunda puisse envoyer une lettre à Hollande, ça a été dicté. Donc il y a toutes ces réalités-là derrière. C'est pourquoi... Et chaque propos de l'homme, chaque acte de l'homme, il faut bien vérifier ses caches des intérêts. Et il a parlé du cas de Kadhafi, et qui donne de l'autre côté, et de l'autre côté, il essaie de détruire. Donc il y a cette politique-là qui règne depuis des années, depuis des siècles. Et les Occidentaux sont très forts dans ça. C'est pourquoi l'Afrique, en tant qu'Afrique, nous devons faire en sorte pour que dans chacun de nos pays, nous puissions travailler pour que le pays soit vraiment un pays d'hommes et de femmes libres et dignes. Et comme ça, l'Afrique sera souveraine et l'Afrique sera responsable.
Brahim Ibni, responsabilité occidentale, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que il faut, tant que l'Afrique n'entre pas dans un véritable processus de démocratisation et de développement, on ne pourra jamais sortir du joug du néocolonialisme. Il faut qu'on procède à la fermeture des bases militaires, parce que la France, surtout par exemple au Tchad, elle fait tout pour asseoir une dictature, et elle pour affermir et consolider une dictature et au détriment de la majorité. Et notre peuple n'est pas ignorant, n'ignore pas tout ça. Donc il faut un sursaut patriotique, il faudra vraiment qu'il y ait un changement, et ce changement ne sera pas largué du ciel, ça sera l'œuvre de tout un chacun parmi nous. Et moi je pense aussi que nous ne sommes pas nés pour subir et rester passifs face à autant d'injustices. Nous devons vraiment combattre pour recouvrer notre droit qui est vraiment usurpé. Et pour cela, il faut sortir du joug du néocolonialisme. Il faut vraiment changer de méthode. Il faut
bâtir une Afrique nouvelle, libre, affranchie, où chaque Africain issu de toute couche ethnique, sociale et religieuse jouera de ses droits fondamentaux et de sa liberté.
Sur ce, nous allons partir en pause.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue sur la sécurité au Sahel, nos invités sont Brahim Ibn Oumar, chercheur tchadien, Ibrahim Kébé, participant au colloque international sur la sécurité au Sahel, et le professeur Abdoulaye Niang, qui est chercheur. Dernier axe de ce débat, l'approche africaine pour la sécurité au Sahel, selon le professeur Issa Ndiaye du Forum civique. L'Afrique a longtemps copié des modèles de gouvernance. Il est donc temps pour l'Afrique de créer son propre modèle. Au colloque, il a précisé, je cite, « Nous sommes ici pour des propositions africaines à nos problèmes, pour analyser et construire des alternatives. » Alors, professeur Niang, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces propos?
Non, en réalité, le monde bouge. Ouais. Depuis juillet 44 à Bretton Woods, ils ont décidé d'un système financier commercial. Et à partir de San Francisco, en juin 45, ils ont décidé de la Charte des Nations Unies, qui est une charte de globalisation, de coopération économique, sociale et sécuritaire. Mm-hmm. Ça fait 70 ans. C'est vieux. Ouais. Et aujourd'hui, la crise sociale, globale et sécuritaire, si elle se matérialise en Afrique par une croissance économique positive, mm-hmm, et un développement humain qui n'est pas en corrélation donc négative, c'est-à-dire chez les autres, ça se matérialise par la désindustrialisation et en même temps la perte de leur classe moyenne de richesse. Donc nous, nous sommes en meilleure position. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est notre tour maintenant d'être la région de croissance économique globale, d'être la région de croissance démographique globale. Donc il est évident que seuls les chercheurs africains vont prendre le leadership pour proposer les alternatives qu'il faut pour sortir le monde entier de la crise globale sécuritaire que j'ai caractérisée pour nous, pour les Européens, les Américains et les Chinois. Donc, et pendant ce colloque, nous avons proposé le système de défense stratégique de la nation, mm-hmm, qui organise la défense nationale en défense civile, en défense économique et en défense militaire. Mm-hmm. Et quand on arrive au niveau de la défense militaire, on parle de mutualisation des ressources sécuritaires de toutes les nations membres des Nations Unies. Pas la formule MINUSMA. Si vous voulez, Barkhane est la copie de la coopération sécuritaire du Sahara, puisqu'on travaille avec les officiers supérieurs de la France, yeah, et ensemble au niveau de l'Université nationale de défense américaine. C'est la copie. Mais si on part avec l'original, nous pouvons dire que cet original viendra des Africains et ce serait l'alternative crédible pour réduire l'impact de la crise actuelle, mais aussi, surtout, réduire le risque lié à la lutte contre ces différentes organisations d'extrême violence. Si vous permettez, en réalité, l'Europe ou les autres gagnent pour le moment, que ce soit dans l'économie extractive, si ça les empêche, les extrémistes violents les empêchent de travailler dans les mines de gaz ou dans les, pour l'exploitation du gaz ou de l'uranium et tout, ils resteront dans l'économie de la drogue, qui est dans le transit. Non seulement ils fournissent les armes pour ceux qui font le transit de la drogue, mais en même temps, la drogue arrive sur le marché européen et ça ajoute de la valeur et ça permet de donner du boulot à la jeunesse désœuvrée des banlieues. Et puis, ça va dans les régions qui sont pauvres pour développer les infrastructures avec l'argent de la drogue. Donc, pour le moment, ils jouent sur ça, mais ça ne va pas durer longtemps parce que c'est sur une fausse base. Et les organisations d'État islamique, vous voyez, les Américains n'arrivent pas à les battre. Hein. Et ce qui est grave, c'est qu'on a vu du côté de celui qu'on a égorgé, des Français. Des Français qui étaient à côté des organisations d'État islamique. Et ce choc psychologique, c'est ce qui va les détruire. Donc ils sont obligés de revenir sur la table pour considérer nos alternatives. C'est-à-dire que, quelle que soit la durée, ils vont dire non, nous venons. Et sur le plan économique, ils sont venus déjà. Ils ont parlé, la Banque mondiale parle de croissance inclusive, le FMI parle de capitalisme inclusif, et l'Assemblée des Nations Unies parle de prospérité partagée. Mmh. Donc ils sont venus vers la vision de globalisation du contemporain que nous avons prônée depuis longtemps et qu'on a parlé beaucoup sur votre plateau ici.
Ouais, ouais,
donc il y a
sûr.
Un rapprochement depuis le 27 mai et à ce niveau-là. Donc sur le plan militaire aussi, Barkhane s'est approché de la COES. Je pense que si le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président de la plateforme de la stratégie du Sahel, aujourd'hui nous écoute un peu, et on a parlé même hier, il dit il faut qu'on s'assoie et qu'on appelle la communauté internationale, comme ça a été fait à Bretton Woods ou à San Francisco en 1944 et en 1945, qu'on appelle tout le monde ici et qu'on vienne considérer les solutions qui ont été ébauchées par le président Koulibaly, par exemple, pour la mutualisation, et moi-même aussi pour le système de défense et d'autres.
D'accord.
On fait des propositions donc, pour qu'on vienne s'asseoir et qu'on mutualise nos connaissances dans la persévérance et dans la droiture.
Alors,
et on s'en sort.
Ces propositions, Ibrahim Kébé, vous avez participé au colloque en même temps que le professeur Niang. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces quelques recommandations et résolutions issues du colloque international? Bien, vous allez laisser ça à Brahim.
Brahim,
okay, Brahim, allez-y. Brahim Ibni.
Bon, en fait, le thème de notre colloque avait au départ même inspiré plusieurs publications littéraires et scientifiques à ce sujet. Et nous, durant 3 jours, nous avons mûri le débat sur. Nous avons mis l'accent sur une force africaine. Une force africaine soutenue par l'Union européenne, mais toujours sous l'égide des Nations unies. Et la formation de cette force africaine nécessite vraiment la mutualisation des efforts. C'est ce que le professeur Mamadou Koulibaly a dit. Donc il faut que la frontière entre le Mali, par exemple, et la Guinée soit sécurisée par les forces maliennes et guinéennes. Et au Niger aussi, et ainsi de suite. Mais ce que nous avons aussi préconisé, c'est qu'il faut qu'il y ait... la France aussi a un rôle à jouer, mais... Nous ne voulons pas qu'elle soit au centre vraiment de
Mais est-ce que l'Afrique est prête pour cela? On peut dire que l'Afrique est prête pour cela aujourd'hui?
On peut dire que l'Afrique est prête dans certains pays, tels que le Mali, c'est un pays démocratique. Le Niger est un pays démocratique. La Guinée, qu'on a créée, c'est un pays démocratique. Des pays comme le Tchad, le Cameroun, etc., c'est des dictatures qui règnent actuellement. Et ils sont soutenus par la France. Et tant que l'Afrique n'entre pas dans un processus de démocratisation, on ne peut pas mutualiser ses efforts. Parce que Il y a des armées nationales et il y a des armées républicaines. Et dans d'autres pays, il y a des armées claniques et des armées qui ne sont ni nationales ni républicaines. Donc il faudra absolument qu'on rentre dans un processus de démocratisation.
Alors, professeur Niang, est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui pour ces recommandations-là?
Oui, non, l'Afrique est obligée parce que à partir du moment où on nous assigne la région de croissance économique globale et qu'il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la richesse, mais on va s'obliger à le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne pense même pas que ça soit très loin. Et tout le monde est convaincu que la MINUSMA, par exemple, sous attaque à Kidal, n'est pas à mesure de faire le travail. Donc, il faut revoir son mandat. Mais malheureusement, ce mandat-là, ça date de 1945, de la Charte des Nations Unies. C'est devenu compliqué à ce niveau-là. Donc, les discussions sont en cours. Les dialogues entre responsables civils et politiques. Si vous prenez même le Mali, le 14 août, on a eu 80 secrétaires généraux et hauts responsables de la défense pour parler de la mutualisation. Comment on peut arriver à une entreprise multinationale sécuritaire? Et récemment encore, on a formé les officiers qui sont dans les ministères. Donc on commence le cabinet de défense de la primature, le cabinet de défense de la présence. Et on les a réunis au sein des séminaires. Donc si le Mali peut, à travers la crise sociale globale et sécuritaire, prendre l'initiative de convoquer, selon le mandat que Ibrahim Boubacar Keïta a pour 2 ans pour la plateforme pour le Sahel, bon, à part du Sahel, c'est la zone la plus compliquée en réalité. Les incubateurs, c'est bon, c'est en Somalie, au Yémen et au Mali. Mais pour le Mali, c'est encore plus compliqué parce que le Sahara permet de faire le transit de la drogue, surtout. Et le Sahara permet de faire le trafic des migrants, le Sahara permet de faire le trafic des otages. C'est le ventre mou en réalité.
Ouais. D'accord. Monsieur Ibrahim Kébé, on a parlé de solutions à l'africaine, mais on a vu qu'au colloque international consacré à la sécurité au Sahel, on a vu que des Français, des Allemands et des Canadiens ont été invités. Qu'est-ce qui explique le choix de ceci?
Je pense que la première des choses, c'est une question idéologique. C'est des hommes de gauche qui se sont retrouvés en général. Et ce qui fait qu'il faut vraiment une vision de gauche. Et chez nous, très généralement, ceux qui sont de gauche, il n'y a pas question d'ingérence. Et ils sont de l'autre côté, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont pour l'ingérence chez nous. Pas du tout. Et souverainement, nous avons discuté en tant qu'Africains de ce que nous en pensons par rapport à toutes ces questions-là. Je pense que c'est extrêmement important. C'est comme sous le régime colonial, il y a des Français qui ont aidé nos parents à vraiment bouter hors du pays et les colonialistes. Ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas une question de couleur, en réalité. Chez nous, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de système. Deuxièmement, moi, je suis entièrement d'accord avec la question d'organisation de la défense civile. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, en décembre 2013, j'étais à Niamey. Il y avait une réunion entre les chefs d'État-major de la sous-région. Ils échangeaient comment vraiment sécuriser toute la zone sahélo-saharienne. Mais c'est après tout ça que le processus a été bloqué. Et après, nous avons vu la question de Barkhane. Ça veut dire qu'on ne nous laisse pas du tout vraiment prendre des initiatives souverainement pour pouvoir gérer nous-mêmes nos propres problèmes. Donc ça veut dire que la question de mettre l'Afrique sous tutelle, c'est ce qui demeure. Et c'est ce qu'il faut empêcher coûte que coûte. Et comme ça, l'Afrique deviendra responsable.
Alors, Brahim Ibni, qu'est-ce qui explique la présence de la France, du Canada et de l'Allemagne à ce colloque?
En fait, comme a dit mon camarade Ibrahim Kebe, en Allemagne, il y a la fondation Rosa Luxembourg, qui est une fondation qui milite pour l'émancipation des peuples, et surtout, c'est une organisation de gauche. Mm-hmm. Pour la France, c'est la fondation Gabriel Péri, qui est aussi une organisation de gauche. Et pour le Canada, nous avons reçu Alain Denon, ça, qui est un chercheur et... qui a produit qui a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les questions de sécurité au Sahel. Donc notre choix, parce qu'on se retrouve en quelque sorte, on a la même idéologie, on est tous des organisations de gauche, et puis on veut vraiment réapprendre à notre peuple des valeurs de gauche.
D'accord. Alors, professeur Nyango, il y a une inquiétude aussi. Est-ce que le Sahel ne serait pas oublié au profit de la situation en Syrie, par exemple, par les puissances occidentales? Il n'y a pas ce risque?
Non, je ne pense pas. Parce que si jamais c'est le cas, ils vont venir former tranquillement au Sahel pour ravitailler la Syrie et l'Irak. Donc, c'est extrêmement important qu'ils voient sous forme de système. C'est l'ensemble, parce que comme j'ai dit, le Sahel et le Sahara, et surtout malien, le Sahara malien, est un incubateur de formation de combattants et qui se trouve en Irak, qui se trouve en Syrie. Donc je ne pense pas que cela soit peut-être le cas. Bon, mais la dernière question aux autres, comme j'étais membre, moi je ne suis pas du Parti communiste, je n'ai pas l'idéologie socialiste.
Allez-y.
En tant qu'économiste, simplement, ce que je partage beaucoup plus sur la citoyenneté mondiale. C'est-à-dire ceux qui ont participé, ils savent que ce qui se passe chez nous du point de vue crise se manifeste autrement, mais la crise les frappe et de plein pied. Quand vous prenez par exemple un pays comme la France, aujourd'hui ils ont une croissance zéro. Donc il n'y a pas de possibilité de création de croissance économique, mais ils dépendent de 20% des économies africaines. Donc s'il n'y a pas la paix chez nous, eh bien ils vont avoir 20% de zéro. Donc, ils ont zéro déjà, plus 20% de zéro, ça fait zéro. Donc, ça va poser des problèmes très sérieux. Donc, nous nous inscrivons dans le cadre de la citoyenneté mondiale, dans le co-entrepreneuriat, qui regroupera les Français capitalistes qui ont à 40%, ou bien les Européens ou les autres nations du monde, ils vont avoir 40% de la richesse de nos pays. Et nous, on va avoir 45% et 15% pour nos autres pays africains. Donc, c'est dans ce cadre-là.
Est-ce qu'à ce niveau, les solutions mixtes ne seraient pas les mieux? Par exemple, associer la solution africaine à la solution des puissances occidentales?
Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sous-traiter sa sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que les autres arrêtent de dire qu'ils ont une solution pour nous sécuriser. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que Barkhane, très bientôt, va s'arrêter si jamais... Et on ne revient pas vers une entreprise internationale sécuritaire qui regroupe toutes les nations. Parce que les Américains ont déjà décidé qu'ils ne vont pas donner un centime. Et tout service rendu à la France doit être payé cash.
D'accord. Merci, professeur Niang. Merci à vous, monsieur Ibrahim Kébé et Ibrahim Ibné, vous qui êtes tchadien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question de sécurité au Sahel. Ibrahim Ibné Oumar, chercheur tchadien. Ibrahim Kébé, participant au colloque international sur la sécurité au Sahel. Professeur Niang, chercheur. Il a également participé au colloque international sur la sécurité au Sahel. Ils nous ont aidés à comprendre les solutions à l'africaine, la situation sur le terrain, la responsabilité africaine et occidentale. Nous espérons que vous avez eu un intérêt pour ce numéro qui vous a été présenté par Sira Batili, réalisé par Modibo Mariko et Ousmane Diadié Touré. Nous me direz à assurer les opérations techniques. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Mouni.
Chen Nibiru.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.